comment on a fait ça. C'est 8 mois de travail suite à une demande qu'on a fait à l'ensemble de nos services sur le terrain, en lien avec les élus locaux, d'aller identifier copro par copro. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes ici à Marseille, que ce soit l'adjointe au maire ou que ce soit nos services, on sait exactement où sont les copropriétés fortement dégradées ou en voie de dégradation. Et donc, on est parti du terrain. Moi, peu m'importe les données statistiques, on est parti du terrain et on les a identifiées comme cela.
Alors comment allez-vous à l'accélérer? Parce que c'est ça le problème.
Ben, pour accélérer, il faut d'abord avoir une volonté politique. La volonté politique, on l'a annoncée, on l'a mise en œuvre. Cette volonté politique, c'est de trouver des solutions nouvelles, radicales, pour effectivement réparer ces copropriétés dégradées qui représentent plus de 50 000 logements aujourd'hui. C'est autant de familles qui vivent dans des logements précaires. Deuxièmement, au-delà de la volonté politique, c'est d'avoir une vision avec un fort engagement en termes financiers. Donc c'est près de 3 milliards d'euros qu'on va mettre sur 10 ans, l'État, ses opérateurs et puis d'autres partenaires. Et puis troisièmement, pour avancer vite, il faut réunir tout le monde autour d'une même table. Quand je dis tout le monde, ce sont tous les acteurs de la rénovation. Et aujourd'hui, je lance ce premier comité national de suivi. Et ce comité national de suivi, il regroupe à la fois les élus locaux, qui sont essentiels, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre sur le terrain, mais à la fois tous les opérateurs de l'État ou proches de l'État, comme l'Agence nationale de l'habitat, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, la Caisse des dépôts, Action Logement ou le réseau Procivis, qui sont autant d'acteurs qui financent, qui accompagnent, qui aident les élus locaux. Quand vous avez une volonté politique forte, quand vous avez des moyens que vous mettez à disposition de manière très ambitieuse, 3 milliards sur 10 ans, et quand vous avez tous les opérateurs, tous les élus locaux et l'État qui se réunissent autour de la même table avec un vrai planning de travail, avec des vraies priorités d'action, parce qu'on a déjà identifié toutes les copropriétés qu'on allait réparer, et bien là, je peux vous dire que vous avancez beaucoup plus vite.
Comment vous allez identifier et réprimer les marchands de sommeil?
Alors les marchands de sommeil, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai déclaré une guerre sans merci, sans relâche contre les marchands de sommeil. Par la loi logement, on prend des mesures inédites, jamais prises et totalement radicales pour lutter contre ce fléau des marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, c'est des personnes qui exploitent la misère de nos concitoyens les plus faibles. Et donc, il faut les taper très fort. C'est le premier axe. Comment on fait pour les taper? Eh bien, on va les considérer comme des trafiquants de drogue. C'est-à-dire que tout ce qui marche pour lutter contre le trafic de drogue, on va l'appliquer aux marchands de sommeil. Parce que ces marchands de sommeil, ils comprennent qu'une seule chose, c'est qu'on les tape au portefeuille. C'est ça qui leur fait véritablement mal. Et donc, par la loi logement, on prend ces mesures de leur confisquer les biens, de leur interdire d'acquérir de nouveaux biens dès qu'ils ont été condamnés pendant une période de plus de 10 ans, de pouvoir leur saisir un certain nombre de réserves financières qu'ils ont. Des mesures inédites avec une détermination aussi forte que les trafiquants de drogue. Et puis le deuxième, c'est qu'il faut les traquer. Et pour les traquer, eh ben là aussi on prend des mesures très fortes puisqu'on va même par la loi demander, imposer aux syndics de copropriété, aux agences immobilières de les dénoncer, ces marchands de sommeil. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand vous êtes sous l'emprise d'un marchand de sommeil, vous n'osez pas. Vous n'osez pas aller voir le procureur, vous n'osez pas aller voir la mairie, parce que vous êtes exploité par ces individus qui sont des trafiquants de misère. Et donc, les taper très fort, les traquer, en imposant à certains de les dénoncer et puis en renforçant également les moyens des mairies pour pouvoir aller identifier ces escrocs que sont les marchands de sommeil.
Et quand vous dites renforcer les moyens des maires, c'est quoi?
Alors concrètement, aujourd'hui, quand je m'excuse parce que c'est un peu technique, mais aujourd'hui, quand vous identifiez un logement insalubre, un logement indécent ou autre, vous pouvez lui appliquer des astreintes. Alors c'est qui le vous? Ça peut être soit les mairies, soit les services de l'État. Ces astreintes, jusqu'à présent, elles sont reversées au budget, à des budgets de l'État. Demain, ces astreintes, elles seront reversées au budget des municipalités et précisément au budget des départements des municipalités qui, elles, vont identifier les marchands de sommeil. Et donc, vous voyez, on crée un cercle vertueux qui fait qu'on incite les départements de ces municipalités, parfois des intercommunalités, à aller identifier, repérer et mettre des astreintes contre ces marchands de sommeil. Et plus elles arriveront à le faire, plus elles récupéreront des financements qui leur permettront de faire grossir leur service et donc d'avoir une action encore plus efficace.
Est-ce que vous allez faire appel aux bailleurs sociaux ?
Vous savez, dans les bailleurs sociaux, dans les conseils d'administration, dans la gouvernance des bailleurs sociaux, vous avez aussi beaucoup d'élus locaux. Et les élus locaux, eux, connaissent très bien leur territoire et souvent voient passer des marchands de sommeil. Et donc, oui, on travaille de concert avec eux. Et puis, le deuxièmement, on a une vigilance très forte, c'est que lorsqu'un bailleur social, mais tout comme un bailleur privé, vend un logement, il faut effectivement s'assurer que ces logements ne puissent être vendus à certains qu'on connaît comme étant des marchands de sommeil. Et ça, c'est aussi les dispositions qu'on a prises dans la loi logement pour se prémunir dans le cadre de vente, que ces ventes soient faites à des marchands de sommeil. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que quand vous étiez un marchand de sommeil, vous aviez la possibilité assez rapidement de pouvoir continuer à acquérir des biens. Et puis surtout, vous aviez un truc incroyable, vous aviez les indemnisations d'expropriation, quand une expropriation était prononcée, que vous récupériez. Et donc vous avez des cas de figure, moi on m'a remonté des cas de figure dans différents territoires, un cas où un marchand de sommeil a été exproprié à hauteur de 6 millions d'euros, et un autre cas où il a été exproprié à hauteur de 700 000 euros pour des personnes qui sont des trafiquants de misère, des escrocs, et que moi je vais traiter comme des trafiquants de drogue. Ben, je peux vous dire que là, par la loi, on met fin à cette aberration, parce que c'est une aberration. Et donc, par défaut, les appartements vont être saisis, et par défaut, les primes d'expropriation que normalement devraient être transmises seront elles aussi saisies.
Vous parlez de copropriétés prioritaires et les autres ?
Prioritaire, ça veut dire que ce sont les copropriétés qui vont en priorité bénéficier de l'ensemble de la politique publique qu'on a mise en œuvre aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, c'est des copropriétés qui vont voir un chef de projet déterminé dans les toutes prochaines semaines en coordination entre les élus locaux et nos opérateurs, et en particulier l'ANA, qui est chef de file pour le gouvernement, que j'ai nommé chef de file pour le gouvernement. Et troisièmement, ce seront donc les copropriétés qui vont bénéficier en priorité des financements que nous évoquions. Ça ne veut pas dire que les autres copropriétés seront mises de côté. Ça veut dire en tout cas que ces copropriétés feront l'objet d'un suivi particulier, prioritaire, national, et que le prochain comité de suivi qui aura lieu dans trois mois, on fera le point pour savoir si tous les chefs de projet pour ces copropriétés ont bien été nommés, si les opérateurs se sont bien positionnés pour accompagner au financement de ces copropriétés, tout ça en lien avec les élus locaux. Quelles sont ces copropriétés ? En fait, dans le recensement précis que nous avons fait, les 700 copropriétés, vous avez parmi elles 128 copropriétés qui sont particulièrement dégradées. Elles sont toutes très dégradées, mais vous en avez 128 qui sont particulièrement dégradées. Et donc, pourquoi on les traite en priorité ? Parce qu'on met l'humain au centre de tout. Et quand vous êtes dans un habitat aussi insalubre, indécent que ces 128 copropriétés, il faut absolument que l'État puisse agir.